Magazine Format, bonjour à tous. Voici ce nouveau numéro du magazine Format, le magazine de l'École internationale du Spa. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance car on accueille Marianne Doulet qui va se présenter et que vous allez découvrir au travers de cette conversation qui va durer à peu près une petite demi-heure. Mettez vos écouteurs si vous êtes dans le métro, ça sera plus confortable. Marianne Doulet, bonjour.
Bonjour Monsieur Madrid.
Merci d'être venu ici au campus nous rencontrer.
Avec grand plaisir.
Alors, pour que nos auditeurs vous découvrent, pouvez-vous vous présenter ?
Tout à fait. Alors, enchantée, je m'appelle Marianne, je suis actuellement spa praticienne. Et pour expliquer un petit peu mon parcours, j'ai commencé l'esthétique très jeune, à 15 ans, directement après le collège, sortie de 3e. Car c'était me concernant, c'était une vocation, ça a toujours été une passion depuis toute petite. Donc, sachant déjà ce que je voulais faire, j'ai commencé mes recherches dès le collège. J'ai trouvé une école où, du coup, j'ai commencé avec un CAP en 2 ans. J'ai continué pour avoir toute l'expérience du massage et du corps avec le brevet professionnel.
D'accord.
Et ensuite, j'ai terminé avec un BTS, option de management, en 2 ans en alternance, pour avoir vraiment la formation complète. Donc, aussi du massage et également du management et tout ce qui est autour du spa.
Et alors, qu'avez-vous fait après votre BTS ?
Alors, après mon BTS, j'ai décidé de partir en Angleterre, car mon gros point faible était l'anglais. Mmh. Et c'est aujourd'hui indispensable de pouvoir communiquer avec tout le monde et de bien comprendre aussi les demandes et l'envie des clients. Donc, je suis partie en Angleterre, à Oxford exactement. J'ai commencé en tant que fille au pair, sur une courte expérience pour un petit peu me lancer dans le pays. Et après, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et pouvoir créer moi-même le dialogue. Donc, j'ai travaillé en tant que barmaid, mmh. Voilà, au sein du coup d'une rue très commerciale avec beaucoup de jeunes, ce qui m'a permis en fait d'établir énormément de discours, de pouvoir complètement améliorer mon vocabulaire. Et je suis restée du coup jusqu'à une année entière. Et après, je suis rentrée en France pour pouvoir reprendre mon métier, bien évidemment.
Et donc, vous avez pu développer un anglais fluide, suffisamment fluide pour être dans les standards des spas, et notamment des spas de luxe, parce que c'est les spas, ce type de spa que vous avez intégré ensuite.
Voilà, tout à fait. Donc, vous apprenez une base, et après, bien évidemment, le vocabulaire, vous devez quand même avoir du travail de votre côté pour améliorer toute la communication et les petits détails de certains mots en esthétique. Mais globalement, oui, quand je suis rentrée d'Angleterre, c'était principalement ma formation d'anglais.
Donc l'accueil du client, l'installation, l'explication du protocole, une partie vente aussi à l'issue du massage ?
Oui, bien évidemment, à ne jamais vous oublier.
Ok, donc la vente en anglais, en tout cas la pratique de l'anglais, encore une fois, est un élément déterminant. Alors avant qu'on poursuive pour découvrir votre parcours professionnel, il y a une question qui me taraude, c'est comment peut-on savoir, dès la troisième, que l'esthétique, c'est sa voie ? Parce qu'on a beaucoup de jeunes filles que nous recevons ici, avec leur maman, je suis en troisième, je ne sais pas encore, l'esthétique me plaît, mais alors on sent vraiment que vous, Marianne, c'était vraiment ancré. Comment ? Pourquoi ? Ça m'intrigue.
Alors, honnêtement, ça m'intrigue aussi. Il faut savoir que j'ai toujours apprécié ce domaine. Je me qualifiais d'une personne aussi assez réceptive et assez empathique. Donc, est-ce que c'est venu de là, mon envie de vouloir prendre soin des autres, de les écouter, de les comprendre, de procurer aussi du plaisir, de voir une réelle transformation. Je pense que ça vient aussi de la personnalité, de ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on a envie de travailler avec les gens ? Est-ce qu'on aime l'humain aussi ? C'est tout ça la grande question, car c'est un métier qui demande énormément de contacts, énormément de patience également, et de bienveillance.
Alors, vous avez fait ce BTS MECP, mais pour qu'on comprenne bien, on sait qu'on apprend des massages en BTS, mais ce n'est pas forcément de la même manière qu'on peut l'apprendre dans une école de massage de bien-être. Il y a plus de profondeur, on regarde les choses de manière un peu plus complète. Comment vous avez complété votre compétence en massage après le BTS ?
Comment je l'ai complété ? Alors, il faut déjà savoir que le BTS, ce qui est super intéressant, c'est qu'il vous apprend à faire des connexions. Il vous apprend à mettre toutes les pratiques et toutes les matières que vous avez pu avoir ensemble. Mmh. Donc, il va vous faire comprendre comment vous pouvez lier ce que vous avez appris en science à ce que vous allez faire comme type de massage, à du coup le diagnostic que vous pouvez donner. Donc, il y a vraiment une profondeur et une connexion avec tout qui est très intéressante. Également, en BTS, on vous apprend tout ce qui est party management si vous choisissez cette option, mais également tout ce qui est gestion. Du coup, en fait, ça vous permet de comprendre tout ce qu'il y a autour du massage et comment aussi en parler, comment vendre, comment voilà, établir aussi des stratégies, comment aussi mettre la main à la pâte lorsque vous êtes au sein d'un spa, au sein d'un institut pour être force de proposition. C'est vraiment un ensemble de connexions. Et au-delà du spa, après, pour les formations, sachez qu'on apprend énormément des personnes avec qui vous travaillez, des managers, des personnes que vous rencontrez et aussi énormément de vos clients.
D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris durant les longues années, on va dire, que j'ai pu faire durant mon travail en spa ou en institut. Et c'est là aussi que vous venez compléter vos savoirs en massage parce qu'elles vous apprennent des choses, elles vous font aussi des retours. Ce qui est très important à apprendre et à recevoir lorsque vous avez des retours des personnes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je pense que c'est un truc à acquérir et grâce à ces retours-là, vous pouvez constamment vous améliorer et constamment aussi vous remettre en question et aller chercher l'excellence.
Oui. Donc c'est un apprentissage terrain, si je comprends bien.
Bien sûr.
Okay. Alors dans quel spa, justement, vous avez exercé ?
Alors après ma formation, j'ai commencé directement en spa d'hôtellerie.
D'accord.
Pendant que j'étais à l'école, j'ai travaillé dans les instituts classiques, les chaînes d'instituts. J'ai travaillé dans un hammam indépendant aussi, à Paris, qui était très intéressant car c'était une dame qui avait tout fait de ses propres mains. Donc pour la connexion avec mon BTS Management, c'était parfait d'avoir cette expérience avec elle. Et après le BTS, j'ai commencé en spa hôtelier, un petit peu par hasard, en recherche d'emploi, savoir quelles nouveautés je pouvais avoir et faire. Et je suis tombée sur un hôtel en saison. Donc j'ai commencé les saisons comme ça et j'ai travaillé dans un hôtel à Megève. Donc c'était la montagne pendant l'été. Donc il faut savoir que lorsque vous travaillez en hôtellerie et dans les spas d'hôteliers, c'est très facile d'y avoir accès parce que c'est du travail qui est quand même intense. Donc lorsque vous êtes motivé et disponible, tout le monde a ses chances.
Lorsqu'on est motivé et disponible. On peut citer cet hôtel ou on peut pas ?
Bien sûr, le Fer à Cheval.
Le Fer à Cheval.
Tout à fait.
Ok.
Il y a un hôtel assez mythique à Megève.
Eh oui.
Il est assez ancien. Et je dirais même que c'est presque une institution.
Oui. Et alors après cette expérience au Fer à Cheval, qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, ça y est, j'étais lancée et j'ai découvert que ce milieu assez intense au niveau du travail me plaisait quand même beaucoup. Et les formations, et vous rencontrez énormément de personnes. Et je me suis lancée et après ça, j'ai commencé les saisons d'hiver. Donc, je suis partie à Val d'Isère.
D'accord.
Où je suis rentrée dans le groupe des RL. Mmh. Et j'ai également commencé mon aventure auprès de Garlin.
D'accord. Auprès de Garlin. Alors, marque mythique, oui. Partenaire du campus de l'esthétique et du spa. Et qu'est-ce que vous avez appris et fait chez Garlin ? C'est passionnant.
Ah, c'est très passionnant. C'est une des marques les plus complètes pour l'instant avec lesquelles j'ai travaillé. Sachant qu'avant de commencer, vous avez une formation de 1 mois. Mmh. Intensif, donc voilà, 5 jours par semaine, vous êtes là et on vous apprend tous les protocoles, les techniques, mais aussi l'univers, comment être, comment parler, comment vendre les produits, mais aussi voilà, comment comprendre les actifs, tout. Et c'est très passionnant parce que c'est une marque qui est mythique, oui. Qui est très ancienne et du coup avec beaucoup de cachets, avec beaucoup d'histoires. Et par exemple, ayant travaillé beaucoup... le marketing aussi en BTS MECP, vous faites vraiment la connexion que le storytelling est reste l'objet le plus intéressant lorsque vous vendez. Et chez Garlin, il y a énormément d'histoires sur chaque produit et c'est merveilleux à pouvoir raconter. Donc vous avez une formation très complète et en pratique, et en maquillage, et en vente, qu'on vient vous donner. Et après, vous venez pratiquer tout le long de la saison avec du coup les produits, les massages et les ventes.
Alors on sent, Marianne, dans ce que vous dites, que vous n'êtes pas réfractaire à la vente. Parce que parfois, on le sait, les élèves en esthétique ou en bien-être se disent « Non, je viens de prodiguer un massage d'une heure, je n'ai pas envie de mettre la main dans le porte-monnaie de ma cliente. » Et bon, j'ai un peu de frein à parler des produits. Vous, ce n'est pas du tout le cas. Comment vous abordez cet aspect vente ?
Alors, je suis praticienne, mais il faut savoir que je suis aussi cliente.
D'accord.
Ce qui est très important, et qui est que lorsque moi-même... Lorsque on me termine un massage, j'ai envie qu'on me recommande des choses.
Oui.
Parce que j'ai envie qu'on fasse un compte-rendu de ce qu'on vient de faire. J'ai envie qu'on me partage aussi le savoir. Je viens faire un massage, mais j'ai envie d'apprendre des choses.
C'est ça la clé, c'est de se dire, de se mettre à la place de la cliente aussi. C'est-à-dire, je veux qu'on me parle du produit, peut-être avec lesquels on m'a massé.
Tout à fait. Vous avez envie de savoir ce que vous avez reçu sur votre visage. Enfin, je veux dire, après, c'est aussi mon domaine, donc je suis très intéressée. Mais aujourd'hui, toute personne déjà qui fait la démarche de venir dans votre spa ou dans votre institut est intéressée. Voilà. Donc, à partir de là, elle est intéressée, mais la porte est ouverte. Après, bien évidemment, plein de fois, ça ne débouche pas forcément sur une vente. Mais là, elle n'est pas l'importance. Là, et que vous partagez le savoir, que vous partagez ce que vous avez fait et que vous créez du lien aussi. Et c'est une personne qui peut-être, sur le moment, ne va pas acheter, mais qui va revenir et reviendra avec d'autres personnes. Ah, c'est top, j'ai eu des super conseils, ça m'a vraiment aidé. Et c'est un soin fini, global, complet.
Ouais. On crée du lien grâce à la vente aussi, c'est ça?
Exactement. Okay. C'est ça qui est... Voilà. Vous donnez vraiment votre avis en tant que professionnel. J'ai vu ça aujourd'hui. Voilà, vous faites ça chez vous. Moi, je vous conseillerais ça, à adopter, à faire comme ça. Enfin, tout le monde est preneuse de conseils, finalement.
Oui.
Et c'est tout le monde aime.
À méditer, nos chers élèves. Après les RL, alors, quel a été l'autre établissement que vous avez intégré?
L'autre établissement que j'ai intégré est l'hôtel du Cheval Blanc.
D'accord.
Voilà, avec qui je travaille depuis quelques années. Donc, c'est un hôtel qui travaille essentiellement en saison. Donc, il faut savoir qu'il y en a il y a un hôtel à Saint-Tropez, à Courchevel, donc, qui sont ouverts lors de la saison estivale. Donc, à Courchevel, uniquement l'hiver. Et Saint-Tropez, du coup, uniquement l'été. Mm-hmm. Après, vous devez toutes connaître aussi également le Châle Blanc à Paris.
Bien sûr.
Lui, par contre, est ouvert à l'année. Mmh. Voilà. Vous en avez également à l'étranger, à Saint-Barthélemy, vous en avez une nouvelle ouverture qui vient de se faire aux Seychelles aussi, et un ancien également aux Maldives.
D'accord.
Donc c'est un groupe qui est très intéressant parce que vous rentrez à l'intérieur. Je suis rentrée à l'intérieur de ce groupe aussi parce que c'est un groupe qui fonctionne avec Guerlain.
Oui.
Donc il y avait naturellement une connexion.
Oui.
Et lorsque vous apprenez une marque, et moi j'aime beaucoup travailler avec cette marque, c'était naturel que je continue mon parcours auprès d'endroits qui produisaient Guerlain, parce que je suis complètement convaincue aussi. Donc,
Et puis vous avez l'expertise de la marque, donc ce qu'on peut comprendre, c'est que l'expertise sur la marque Guerlain a été un sésame pour entrer au Cheval Blanc.
Tout à fait.
Ok.
Donc ils vous fournissent bien évidemment quand même, à chaque début de saison, des formations.
Oui.
Voilà, ça fait jamais de mal de se rappeler comment faire, de reprendre des bonnes habitudes, parce que les mauvaises habitudes sont également très faciles à prendre et très rapides. Donc ils viennent vous former à chaque début de saison. Mais voilà, je connaissais bien sûr déjà l'univers et ça me permettait aussi en fait à chaque saison d'approfondir ce que je sais. Parce que bien évidemment, ce sont des gens qui s'adaptent, donc ils vous donnent des informations différentes et ils vous donnent aussi une manière de voir les choses différentes. Donc ça c'est intéressant parce que chaque saison, vous travaillez avec la même marque mais finalement vous en apprenez tout le temps.
Finalement, chaque saison est une nouvelle saison.
Exactement.
Ok, un peu comme sur Netflix. Alors, si je comprends bien, vous travaillez en saison. Alors qu'est-ce que vous faites en intersaison?
Alors, l'intersaison, déjà, il faut savoir qu'elle est très rapide. En général, vous terminez plutôt les saisons d'hiver, fin mars, début avril. Et que, par exemple, moi, ma saison d'été, je la reprends mi-avril.
D'accord.
Donc, ça me laisse deux semaines.
C'est très court, ouais.
Donc, finalement, l'intersaison, le temps que vous rentrez chez vous, de vous poser un petit peu, de revoir un petit peu votre famille, vos amis, faire un peu quelques activités, et finalement, vous repartez assez très rapidement. Le moment où on a un petit peu plus de temps, c'est la fin de l'été, début hiver. Parce que la fin de l'été, en général, c'est mi-octobre, début octobre. Et vous reprenez l'hiver fin novembre. Mmh. Donc, si c'est vraiment fin novembre, voire début décembre, mais c'est plutôt fin novembre, vous avez trois bonnes semaines.
Ok.
Mais c'est quand même rapide.
C'est quand même rapide. Alors vous, comme vous n'aimez pas rester à ne rien faire, j'ai bien compris, vous êtes parti vous former et vous êtes parti vous former en Thaïlande.
Exactement.
Et donc, vous avez trouvé le temps entre deux saisons d'aller vous former. Vous êtes formée à quel massage?
Alors, en Thaïlande, j'ai eu deux formations. Donc, une première formation, bien évidemment, au massage thaï.
Massage thaï.
Massage thaïlandais. Et une deuxième formation de Chin and Song.
D'accord.
Qui est un massage...
Du ventre.
Exactement.
Que nous proposons à l'école.
Ah ben voilà.
Ok. Et l'expérience, il faut vraiment que vous nous racontiez l'expérience de formation en Thaïlande. Qu'est-ce que ça donne d'aller se former en Thaïlande, à la source?
C'est déjà premièrement quelque chose que je recommande à chaque personne, que vous êtes du métier ou pas, en fait, parce que ça vous aide énormément à comprendre des choses, à faire des connexions et à grandir vous-même. Et en tant qu'esthéticienne, ça vous permet une nouvelle compréhension du massage et encore une fois de faire des nouvelles connexions qu'on ne vous apprend pas forcément en France, parce qu'on a une culture différente. Pas que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas... donné dans les établissements, mais c'est juste qu'en partant en Thaïlande, vous avez une culture différente qui vient s'additionner à la vôtre. Du coup, en fait, vous avez le jeu des deux cultures que vous pouvez et des connexions de comment faire un massage complètement différent. Donc en Thaïlande, on vous apprend, voilà, il y a toute la préparation à recevoir le massage qui est très importante.
La préparation au protocole.
Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on fait en Thaïlande qu'on ne fait pas ici ?
Alors, ça dépend. Chaque personne est libre de faire et de trouver sa préparation à comment préparer une personne à recevoir le massage.
D'accord.
Mais en Thaïlande, il y a un grand rapport aussi au niveau de la prière, qui est de rassembler principalement les énergies et essayer de détendre principalement la personne qui va recevoir le massage, à vraiment recevoir ses bienfaits. Parce que des fois, on peut avoir l'action d'aller se faire masser, mais voilà, on est très tendu, et puis elle va vous appuyer fort à un endroit et vous n'allez pas être d'accord de recevoir ce massage, cette pression aussi. Donc il faut que tout le monde jauge, à savoir comment d'abord décontracter un corps, se poser et pour en fait prodiguer le soin et aller au bout en fait de l'expérience. C'est déjà arrivé malheureusement que plein de personnes après les massages se disent « c'était sympa
oui. »
et c'est tout.
Un peu déceptif.
Voilà, et ça c'est très frustrant parce que voilà, on veut absolument venir détendre et on a un but précis dans le massage qui est de donner, de faire son propre diagnostic et d'améliorer un petit peu la condition de la personne, que ça soit physique ou au niveau de son esprit. Mm-hmm. Donc on peut aussi juste détendre au niveau de la tête et ça c'est très important. Donc voilà, il y a toute cette option et cette nouvelle vision que je trouve qu'on apprend en Thaïlande qui est très intéressant. C'est des gens qui sont d'une bienveillance et qui sont adorables. Je dirais que leur seule culture là-bas, c'est d'être heureux et de transmettre la bienveillance.
Okay.
Donc,
et est-ce qu'on peut transposer cette préparation chez nous en Occident, en France, dans un spa traditionnel ? Est-ce qu'on peut faire ça ou faut-il l'adapter ?
Alors, on peut, mais je pense qu'il y a quelques petites adaptations à faire, selon mon avis. Il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à recevoir, on va dire, tout l'ensemble qu'on vous donne en Thaïlande. Donc voilà, ouais, c'est tout un petit peu un rituel un peu spirituel, donc qui est très intéressant lorsque vous êtes en Thaïlande, mais on sait très bien que lorsqu'on est en France, la mentalité et comme je disais, les gens sont différents. Donc ils sont un petit peu moins réceptifs. Donc il y a la préparation, je dirais, au massage qui est peut-être à adapter, à trouver d'autres principes, peut-être un petit peu plus à travers le dialogue peut-être. Voilà, ça c'est vraiment après chacun est à l'aise de comment il peut faire pour préparer une personne. Par exemple, à recevoir le massage.
C'est une démarche personnelle. J'ai l'impression que ce que vous dites, Marianne, c'est que la manière dont je vais préparer la personne que je vais masser, ça m'appartient. C'est moi qui trouve la méthode.
Alors, vous pouvez, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est qu'en Thaïlande, il n'y a pas, entre guillemets, de règles, il n'y a pas de protocole. Il y a énormément, par contre, de choses basées sur le ressenti.
D'accord.
Et c'est pour ça que c'est très personnel. Donc on peut vous donner quelques techniques de base, voilà, quelques touchés à faire au niveau des épaules, au niveau de certains points stratégiques qui fait que la personne naturellement va se détendre. Après, si c'est par exemple une personne aussi habituée que vous avez l'habitude de recevoir, vous avez peut-être déjà créé du lien avec cette personne et vous savez peut-être comment adapter par exemple à cette personne, comment faire, et qui va naturellement la décontracter. Parce qu'elle aime ça, du coup, dès que vous parlez de ça avec elle, tout de suite, ça la décontracte, ou il y a une fragrance aussi, qu'elle préfère, du coup, que vous pouvez mettre aussi en avant. Voilà, vous pouvez parfumer sa taie au niveau du lit de massage pour pouvoir aussi la détendre. Vous voyez, c'est aussi tout ça qui est très important. Et le lien que j'invite à tout le monde à faire, c'est de pas juste donner un massage, c'est de créer une ambiance et le mettre la personne complètement... ailleurs durant cette période, quoi.
Alors, il y a, sur le planning d'un spa, une problématique de temps. Parce que,
bien
parfois, évidemment, les massages s'enchaînent, on a à peine le temps de refaire sa cabine. C'est là où il faut peut-être... Alors, comment on peut faire ? Il faut convaincre le ou la spa manager de mettre en place ces démarches. Vous, par exemple, personnellement, lorsque vous allez retourner en saison, vous allez appliquer ce que vous avez appris en Thaïlande ?
Alors, il faut savoir que chez Garvin, on l'applique déjà.
Ah.
C'est ça qui est très intéressant et qui est... assez fort, c'est qu'ils ont compris cette démarche de venir préparer le corps, l'esprit et mettre la personne dans un endroit complètement détendu. Donc on a cette personnalisation, par exemple, qui est que on vient parfumer par exemple l'endroit parce que c'est une cliente qu'on a déjà reçue et qu'on sait que voilà, on a créé du lien, donc on sait ce qu'elle aime en odeur, on va venir préparer ça. Vous avez tout le côté au début qu'on vient détendre le corps. Donc généralement, vous pouvez faire des pattes d'ours, ce qu'on appelle pour venir décontracter le corps. Mais il y a des jeux de serviettes aussi. Vous venez appuyer certains endroits, vous venez tirer un petit peu en dessous de la tête, etc. Vous avez déjà une préparation. qui est avant le massage et qui est applicable dans leur protocole. Et je n'ai jamais eu une seule cliente qui m'a dit « c'est une perte de temps ».
Oui.
Personne.
Parce que le bénéfice est perçu et,
exactement.
Et, en fait, et même demandé, apprécié, non ?
Oui, et il amplifie le massage. C'est ça qui est important. C'est que ces quelques minutes qu'on prend au début, c'est pas « je perds du temps, j'arnaque la personne ». Oui. Non, c'est comme la vente à la fin, c'est indispensable en fait. Okay. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le massage, c'est pas juste « je viens faire des pétrissages et des effleurages sur une jambe ». Il y a une connexion du corps entier, il y a une préparation, et il y a des conseils, des astuces, et potentiellement une vente après.
On tient une baseline, Luz-Marie. Le massage, ce n'est pas que venir faire des pétrissages et des effleurages sur une jambe. Verbatim, Marianne Dolly. C'est très intéressant. L'approche client, là où on a parlé, vous avez évoqué la préparation, mais l'approche client en préparant ce format, vous m'avez dit que c'était un peu différent de ce que nous connaissons. Le client qui vient vous voir ici, ou si, en France, ou une clientèle internationale, a une attitude peut-être parfois radicalement différente de l'attitude du client en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez peut-être illustrer ça, Marianne ?
Alors, effectivement, en Thaïlande, de ce que j'ai pu remarquer, les gens viennent vraiment déjà détendus dans un but de complètement recevoir et sont complètement ouverts à recevoir. Donc, quoi qu'on leur fasse, ils viennent là pour recevoir et pour apprendre aussi de quelles manœuvres ils vont recevoir, de plein de choses. En France, c'est un petit peu différent, suivant les clientèles qu'on peut avoir, il y en a... Certaines personnes peuvent être un petit peu plus brutes, je dirais, et venir déjà avec peut-être un bagage un peu plus lourd. Et ce qui fait que lorsqu'on tombe sur ces personnes-là, c'est des personnes un petit peu plus fermées. Donc, c'est-à-dire des personnes qui arrivent, qui sont un peu plus imposantes, et on a même le sentiment des fois qu'elles se mesurent à nous, d'accord, alors qu'on est juste là pour venir les détendre et passer un bon moment et comprendre leurs besoins. Donc,
parce que c'est un rapport de force, j'ai l'impression, ce que vous dites.
Alors, des fois, ça peut arriver. Vous avez le fameux exemple du temps d'âge de main avant de commencer, parce qu'on veut vous serrer la main pour savoir quelle pression vous avez, quelle force de poigne vous avez, pour savoir si vous êtes apte à faire des massages très forts et très appuyés. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport de force où on se dit, c'est vrai qu'en Thaïlande, il n'existe pas, en fait.
Oui.
Il n'existe pas.
C'est plus apaisé.
Bien entendu.
Et on sait aussi que la main, c'est pas ce qui donne la force, c'est plutôt le poids du corps.
Exactement. Et c'est ça qu'on apprend aussi énormément dans le massage thaïlandais, qui est qu'on revisite complètement le massage, si je puis dire, par rapport au massage qu'on nous apprend en Occident ou en France, qui est qu'on va complètement utiliser le poids du corps. Et c'est très important, on utilise aussi énormément la partie du coude, parce que c'est une partie qui est quand même un petit peu charnue, donc c'est pas le coude, c'est la partie avant, un petit peu avec le muscle, pour bien sûr pas faire mal. Mais en fait, vous avez une certaine position qui vous donne énormément de force, malgré votre gabarit. Vous pouvez être très fine, voire même maigre, et vous pouvez avoir beaucoup de force. Parce que le poids du corps, c'est ce qui fait tout. Et vous terminez le massage, et vous n'êtes pas fatigué.
Formidable. Alors justement, pour avancer et terminer ce numéro de format, une question, que diriez-vous à une personne qui veut se lancer dans le massage de bien-être, qui voudrait se former? Selon vous, quelles sont les prédispositions, les prérequis, les dispositions mentales, les soft skills, comme on dit? Quel conseil lui donneriez-vous en tant que professionnel du massage?
D'abord, la bienveillance. Ça, c'est quelque chose de très important parce que vous le vouliez ou pas, vous le transmettez. C'est un rapport aussi d'énergie et de contact. Et les personnes sentent tout de suite si vous dégagez de la bienveillance ou pas. Donc naturellement, de la bienveillance, être passionné, parce que c'est un métier qui est très compliqué. C'est un métier qui demande énormément de sa personne, qui demande en fonction des établissements d'être disponible, d'avoir une force de caractère, donc c'est-à-dire d'arriver au travail et malgré qu'il y a pu se passer certaines choses, vous laissez vos bagages au vestiaire et vous arrivez avec le sourire. Parce que l'important n'est pas ce que vous avez vécu, mais ce que vous allez donner. Et ça, c'est assez important, donc je dirais voilà, la bienveillance et la passion, parce que c'est un métier de contact et c'est un métier d'humain.
Un métier de l'humain. Oui. Votre programme pour 2024, Marianne, qu'allez-vous faire ?
Alors moi, je recommence ma saison cet été, d'accord, mi-avril, à Saint-Tropez.
Donc c'est dans très peu de temps ?
Tout à fait, ça me laisse encore un petit
peu de temps. Je viens de vous dire que les vacances sont finies.
Mais bientôt, tout à fait, bientôt. Donc là, je suis un petit peu dans la préparation mentale, à me remettre un petit peu dans le bain également, à me replonger aussi dans certains livres, dans certaines pratiques pour me reconditionner. Mais je recommence ma saison d'été effectivement là, le mi-avril jusqu'à mi-octobre.
Alors, on est dans l'année des JO et là, j'ai l'impression d'entendre une sportive de haut niveau. Je suis en préparation mentale. C'est un peu ça, non?
Alors, c'est un peu ça. En étant sportive, en étant combative, c'est aussi des qualités qui sont requises, mais qui ne sont pas forcément obligatoires lorsque vous souhaitez être spa praticienne. Mais c'est préférable. Ouais, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un qui se prépare. Quelqu'un... En fait, tout ça rejoint la passion.
La passion du métier.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Marianne, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps entre préparation mentale, lecture et revisite de certains protocoles. Merci d'avoir participé à ce format. Louise-Marie, merci pour la technique. J'espère que vous avez apprécié et découvert l'univers de Marianne Dollet, que l'on retrouvera prochainement à une visite ici à l'EIS. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, Marianne.
Merci, Monsieur Madrid.